Bonjour à tous. Comment préserver la mémoire du futur en ce début d'année? Troisième épisode d'une série de quatre sur l'ubérisation de nos vies. On en parle avec nos invités à partir de 12h55. Xavier Boissel, auteur aux éditions Inculte de Capsules de Temps, et le neuropsychologue Francis Eustache, qui a dirigé aux éditions Le Pommier l'ouvrage La mémoire au futur. Ils seront tous deux nos invités dans la grande table des idées. Mais d'abord, c'est un château, une forteresse de la littérature. Prix Albert Londres pour Ligne de front en 88, il a construit une œuvre entre roman et document. Dans Crac, qui paraît chez POL, il part sur les traces de Laurence d'Arabie. Jean Rollin est notre premier invité à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
De Beaufort au Liban, au Crac des Chevaliers en Syrie, jusqu'à la forteresse de Kerak en Jordanie, c'est une affaire de château. Et Jean Rollin a refait le voyage un siècle après l'archéologue, agent du renseignement britannique, arabisant et écrivain, Laurence d'Arabie. Enfin, pas encore. À 21 ans, il est étudiant en histoire et en architecture et il va marcher plus de 1800 km au Moyen-Orient, visiter plus de 30 châteaux forts de l'époque des croisades pour apprendre à les connaître, pour les regarder, pour les décrire dans ses lettres. Bonjour Jean Rollin.
Bonjour.
Crac, c'est le titre donc de ce récit qui vient de paraître chez POL. Crac, c'est une drogue. C'est aussi une forteresse, c'est aussi un cheval de course ou un homme hyper compétent. C'est enfin une onomatopée qui fait crac-boum-u pour certains et qui claque. Pourquoi ce mot en quatre lettres ?
D'abord, je précise que là, sauf erreur de ma part, le crack, la drogue, ça s'écrit CK.
Ah, il y a beaucoup d'écritures différentes pour voilà. Tous ces mots, mais on est
alors
à la radio.
Que la forteresse, il y a aussi plusieurs écritures
c'est
différentes.
C'est avec un K ou avec un C.
Elles sont absolument arbitraires. Mais la plus usitée et la plus simple, et celle que je préfère, c'est crack, CRAC, comme, non pas la drogue, mais comme l'onomatopée. Voilà. Parce que j'ai choisi ce titre parce que, à cause de la confusion qu'il induit, non pas justement avec la drogue ou avec le type super doué dont vous parliez, parce qu'un crack, dans le sens de super doué, ça s'écrit aussi CK, non? Il me semble.
Alors, attendez, c'est que je m'y remette. Crack, je crois, c'est ça,
oui,
exactement.
Je crois, oui.
J'ai tout vérifié
oui,
ce matin, je vous avoue. Je
mais parce que le, voilà, à cause de la sonorité, de la similitude avec l'onomatopée. Et puis d'autre part, parce que le crack, donc la forteresse qui porte ce nom, le crack des chevaliers en Syrie, est un peu le héros, si je puis dire, de ce récit. Enfin, c'est l'élément central du récit, même s'il y a beaucoup d'autres châteaux. Beaucoup d'autres histoires et de personnages, c'est quand même, tout ça gravite un peu autour du crack, et puis c'est le crack qui est à l'origine du désir que j'avais d'écrire sinon ce livre, enfin quelque chose de genre, quoi, d'aller c'est en fait la persistance du crack à travers la guerre civile en Syrie, qui est au départ de l'histoire pour moi. Voilà, j'avais visité le crack autrefois, dans un pays en paix, bon, et c'est un édifice absolument extraordinaire, bon, et je peux pas dire que c'est évidemment tout à fait un détail, là, pour le coup, en effet, infime de l'histoire effroyable de la guerre civile en Syrie. Mais enfin, moi, ça m'intéressait quand même particulièrement de savoir ce que cette forteresse que je connaissais, donc, était devenue, à travers la guerre. D'autant plus que j'avais vu des images du crack occupé par des rebelles et bombardé donc par les troupes loyalistes. Voilà. Et donc, je me demandais ce qu'il en était advenu.
Alors, on va revenir sur les hauteurs de ce crack des chevaliers près de Homs en Syrie, non loin de la frontière syrienne qu'on voit d'ailleurs, et qui à vol d'oiseau est à combien très très peu.
De la frontière ouais. du Liban.
Le Liban.
Oh, c'est trois fois rien. Je sais pas, ça doit être une vingtaine de kilomètres.
J'ai dit à la frontière syrienne, oui, pardon, libanaise. Oui. Voilà. On va y revenir, mais juste pour comprendre la démarche de ce récit, de ce livre qui s'appelle donc Crac et qui paraît chez POL. Outre une enfance à Dinard et une parenté militaire, votre père était, je crois, médecin dans l'armée. C'est ça, Jean Rollin?
Oui, mon père était médecin militaire. Oui, mais enfin, mon père était, bon, enfin, moi, tel que je l'ai connu, il n'était pas du tout militaire. Et il n'était plus tellement médecin non plus. Mais enfin, il se trouve qu'il avait choisi jeune cette ce qu'on appelle l'école de santé Laval de Bordeaux à l'époque, essentiellement pour fuir son pays, sa famille, et pour aller ailleurs. Voilà. Mais enfin, le fait est qu'il a été médecin militaire, ce qui l'a amené à faire la guerre dans les forces françaises libres, à quitter l'armée à la fin de la guerre et à faire autre chose par la suite, et à vivre beaucoup à l'étranger, où nous l'avons parfois, quand je dis nous, c'est ma mère, mon frère et moi, où nous l'avons parfois suivi.
Alors, outre cette enfance à Dinard que vous avez passée, et Laurence d'Arabie aussi, enfin Thomas-Edouard Laurence, avant de devenir Laurence d'Arabie, quelle filiation entre vous et cette figure britannique?
Mais d'abord, ça n'est tout de même pas rien que nous ayons passé l'un et l'autre, Laurence et moi, la même période de notre vie, dans la même petite ville, où quand même... assez peu de gens ont vécu, enfin assez peu de gens ont vécu pour la bonne raison que c'est une petite ville. Donc j'ai été frappé de découvrir que non seulement qu'il avait vécu au même âge que moi, voilà, au même âge que moi, à un peu plus d'un siècle de distance, et d'autre part il y revient, donc il y passe quelques années de son enfance, comme moi-même j'y ai passé quelques années de mon enfance avec ma grand-mère dans
après
sa maison,
ira,
et puis
après
il revient adolescent chez les gens qui étaient des amis de ses parents, probablement des gens qui louaient la maison que ses parents occupaient durant leur exil dinardais, bon, qui s'appelle les Chénions. Et il repasse les voir alors qu'il fait... parce qu'avant de partir au Moyen-Orient pour visiter toutes ces forteresses bâties par les croisés, il a fait la même chose, si je puis dire, en France. Il a fait 3 voyages en France de plusieurs milliers de kilomètres à bicyclette, cette fois, pour visiter déjà des châteaux forts, parce que c'était sa passion. Et donc, lors de 2 de ces voyages au moins en France, à bicyclette, il est passé par Dinard et il a séjourné chez les Chénions. Et donc il mentionne ça dans ses lettres, et ce qui m'avait frappé, alors là c'est pas dans les lettres de Laurence, c'est dans un article d'un historien local de l'Ille-et-Vilaine, il apparaît que Laurence fréquentait une petite plage qui, à ma connaissance, n'a pas de nom d'ailleurs, que nous appelions, mes parents, mon frère et moi, par dérision, Eden Rock, qui est une petite plage au bout d'un champ autrefois de luzerne, donc pas tellement visible, pas tellement accessible, en tout cas inaccessible en automobile, et que nous fréquentions donc nous, parce qu'elle était parce qu'il y avait peu de monde, quoi, voire personne, et les Laurence faisaient déjà la même chose dans les toutes premières années du XXe siècle. Donc quand il revient, cette fois jeune homme, il va se baigner sur cette plage-là précisément, comme je l'ai découvert à travers l'article de cet historien local qui s'appelle Fermin, Monsieur Fermin, je crois. Oui.
Alors il y a Dinard, mais il y a aussi la figure, le personnage,
mi-espion, mi-archéologue.
Laurence d'Arabie, une particularité. Et on retrouve déjà cette ombre, cette silhouette de Laurence d'Arabie dans votre précédent livre, Le Traqué Kurde, où il faisait une apparition. On va se souvenir, à travers le film qui l'a rendu extrêmement populaire, le film de David Lean qui est sorti en 62 avec Peter O'Toole dans le rôle titre extrait.
Laurence, mon général. Gillard.
Bonjour, mon général.
Et le salut.
Si vous êtes indiscipliné avec moi, Laurence, je vous mettrai aux arrêts.
C'est ma manière d'être.
Votre quoi ?
Ma manière d'être. J'ai l'air d'être indiscipliné, mais je ne le suis pas.
Vous savez, je n'arrive pas à comprendre si vous êtes le dernier des malappris ou seulement un minus abins.
Je me pose la même question.
Tenez-vous.
Oui, mon général.
Le bureau arabe semble estimer que vous pourriez lui être utile en Arabie. Pourquoi ? Je me le demande. Vous êtes incapable de faire votre travail actuel proprement.
Je ne sais pas jouer de la lyre, mais je peux faire un grand état d'un petit village.
Comment ?
Thémistocle, mon général, un philosophe athénien.
Je sais que vous avez une bonne instruction, Laurence. C'est mentionné dans votre dossier. Vous êtes le genre d'individu que je ne peux pas supporter, Laurence. Mais je peux évidemment me tromper. C'est bon, Dryden. Je vous le prête pour 6 semaines. Qui sait ? Ils en feront peut-être un homme.
Cultivé, mais indiscipliné, brillant, mais tête brûlée. Laurence d'Arabie et vous, Jean Rollin, il y a des ressemblances ?
Oui, enfin tout de même, je ne songerai pas, en dépit de ces épisodes communs, enfin communs ou comparables de notre enfance, je ne songerai pas comment dire, à prétendre que je ressemble à Laurent Zarabi. Non, bien sûr que non. Je veux dire, c'est un personnage que je trouve très attirant, et pour toutes les raisons que vous venez de mentionner, bon, dans lesquelles son enfance joue un rôle modeste. Hein, je l'ai découvert probablement comme tous les gens de ma génération à travers le film, et donc sous les traits de Peter O'Toole. J'étais encore très jeune, tant je me souviens, quand ce film est sorti. Bon, par la suite, j'ai lu Les Sept Piliers une première fois, bon, parce que je les ai relus récemment, là, avant d'entreprendre ce voyage. Et donc, j'ai toujours eu, oui, un goût particulier pour Lawrence. Non pas parce que j'estimais que je lui ressemblais, mais parce que peut-être aurais-je aimé lui ressembler. Enfin, pour une part, hein, pour une part. C'est quand même un personnage difficile qui s'est imposé une vie aussi très 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 difficile. Enfin, en particulier, si vous voulez, après la Première Guerre mondiale et ses suites immédiates. Bon, quand il est rentré comme simple soldat dans la RAF, etc. Bon. Enfin, c'est un destin fascinant, c'est un personnage fascinant. Je sais pas si je sais pas qui est le général, naturellement, bougon, grossier et inculte qui l'engueule là dans le court extrait qu'on vient d'entendre.
Mais qui finit par le débaucher.
Oui,
quand
je
même.
Sais même pas d'ailleurs si ça correspond à une réalité quelconque. Je suis pas sûr que. Enfin, si c'est vrai que Lawrence agaçait considérablement ses supérieurs par son refus de porter l'uniforme, par son insolence, par voilà. Mais en même temps, il a été quand même très vite très considéré. Du fait d'avoir de son extrême intelligence, du fait que que son expérience préalable d'archéologue faisait qu'il parlait l'arabe, qu'il connaissait bien le pays, etc. Donc les Anglais et le bureau arabe du Caire s'est très vite rendu compte à quel point c'était un collaborateur précieux pour eux. Bon. Oui, je sais plus qu'est-ce que je peux dire d'autre sur Lawrence. C'est quand même aussi un écrivain, hein. C'est quand même un écrivain, un très bon écrivain. Enfin, les Sept Piliers, ça ressemble pas à grand-chose d'autre, mais c'est un très beau livre. Et puis il y a tout ce qu'on ne sait pas de Lawrence qui est très attirant aussi, tout ce qu'on ne sait pas précisément, notamment cette relation extrêmement forte qu'il a eue avec ce jeune homme qui était son assistant, en fait, dont il a fait son assistant sur un chantier de fouilles à Carchemish, en Syrie, sur l'Euphrate, qui est peut-être la relation la plus forte que Lawrence ait jamais entretenue avec un autre être humain. Il était très secret, très solitaire, très renfermé, bon, et dont on ne sait pas si c'était de toute façon une relation amoureuse, mais jusqu'à quel point l'était-elle. Voilà. Donc, c'est à ce jeune homme qui est dédié que sont dédiés les Sept Piliers. Il y a ce magnifique poème d'introduction des Sept Piliers qui lui est dédié. Ce mystère qui s'est plus d'ailleurs à cultiver autour de lui-même, bon, genre le rend bien sûr très très attrayant.
Mais c'est pas son mystère que vous êtes allé percer ou chercher suivant.
Non, je m'intéresse à un épisode très précis de sa vie. Oui.
Et ben on y vient justement. On est au début du 20e, autour de 1909. Il
1909,
se rend donc en Syrie et dans la région Jordanie, Liban, et il va à la découverte de ces forteresses, de ces châteaux forts. Vous avez donc choisi de marcher sur ses pas, d'aller voir ce qu'il avait vu. Dans quelles conditions d'abord vous avez réalisé ce voyage? C'était l'an passé pour vous, Jean Rollin, et c'était l'an passé dans une Syrie en guerre. C'était un voyage sous surveillance?
Oui, enfin Non, je rappelle quand même brièvement quoi. Le Lawrence fait ça en 1909. Il va avoir, je pense qu'il a, il a dû célébrer son 21e anniversaire en chemin. Donc il est très jeune encore. Et en fait, il s'agit de préparer son diplôme de fin d'études, qui est une comparaison entre l'architecture militaire des Francs au Moyen-Orient et en France, voilà. Pour savoir dans quel sens se sont exercées les influences, etc. Bon, bref, donc c'est un travail assez austère. Et il fait cette exploration entièrement à pied. Bon, déjà, moi, je ne suis absolument pas dans ce cas. Moi, j'ai visité les châteaux à pied, parce que fort heureusement, on ne peut pas y rentrer en automobile, ni avec un autre moyen de transport mécanique. Mais je n'ai pas marché. Bon, c'était par moments un voyage assez difficile, notamment en Syrie, du fait du contexte. Mais je n'ai pas accru cette difficulté en me rendant à pied d'un château à l'autre, comme lui-même l'avait fait. Bon. Alors après, c'était bien sûr qu'on ne pouvait pas à l'époque C'est tant est qu'on le puisse aujourd'hui, d'ailleurs, voyager en Syrie, comme ça, les mains dans les poches, sans accompagnateur, etc. Oui, donc, je l'ai fait. Enfin, par ailleurs, je dois quand même reconnaître aussi que qu'on m'a foutu la paix. On ne m'a pas inquiété. On ne m'a pas. Bon, il n'y avait pas beaucoup de checkpoints, beaucoup de papiers à produire, de justifications à donner, etc. Mais enfin, on m'a laissé faire ce que je voulais faire. Dans la mesure d'ailleurs où j'avais annoncé dans ce jeu que je voulais visiter un certain nombre de châteaux. Bon, les services syriens qui sont effectivement très vigilants, mais constatant probablement que je faisais effectivement ce que j'avais annoncé, n'ont pas du tout cherché à m'empêcher de le faire. Voilà. Mais en revanche, moi j'ai évité, par exemple, au contraire de ce que j'aurais fait normalement, j'ai évité le plus possible de parler à des gens que je ne connaissais pas, si vous voulez, dans des villes ou dans des villages que je traversais, parce que je craignais de leur attirer des emmerdements par la suite. Quoi. Voilà.
Et par bribes, vous racontez les conditions de ce voyage, des instants. Est-ce que vous pouvez nous lire, page 116, un extrait de ce parcours que vous avez réalisé, de ce voyage en Syrie? Je vous propose de commencer, je lis les premiers mots et vous prenez le relais, sur la page de gauche. Le lendemain matin, en reprenant la voiture, nous avons constaté que nous étions dorénavant précédés par un véhicule banalisé rempli de mourabarat.
Oui, un véhicule banalisé rempli de mukhabarat. Les mukhabarat, c'est les gens des services, quoi. C'est la sécurité. C'est des gens donc en civil qui surveillent un peu tout et tout le monde et qui n'ont pas la réputation d'être particulièrement tendres. Banalisé est d'ailleurs une façon de parler, car il s'agissait d'un break 505 blanc, un modèle qui serait l'équivalent syrien de ce que fut en Argentine du temps de la dictature militaire, la Ford Falcon. C'est-à-dire pour les opposants au régime qui eurent la malchance d'en voir une se garer en bas de chez eux, la promesse d'un voyage sans retour. À ma grande satisfaction, le break 505 est tombé en panne dès la sortie de Tartous. Mais le véhicule défectueux et ses quatre occupants ont été remplacés par une nouvelle équipe à bord d'une Kia, et cela dans des délais si brefs qu'il fallait que cette mission d'escorte ait été planifiée avec un certain soin. C'est dans cet équipage, précédé d'une voiture de mukhabarat roulant à tombeau ouvert, que nous avons emprunté sur une trentaine de kilomètres la voie rapide reliant Tartous à Banias, puis à une vitesse moindre, la route secondaire menant au château de Markab, celui dont Laurence, dans une lettre à sa mère, prétend qu'il est à peu près aussi grand que Jersey.
Et on y retrouve cet humour très british qui est le vôtre, Jean Rollin, voire un certain flegme britannique, le calme devant l'adversité, la réalité brut, raconté aussi, avec détachement. Ça, c'est une posture d'écrivain, Jean Rollin, ou c'est votre nature d'homme?
Ce détachement, c'est... Ben, je sais pas, c'est les deux. Hein. C'est une attitude que je m'efforce d'opposer à la réalité, enfin, quand elle est... spécialement quand elle est menaçante. Hein.
Vous êtes reparti d'une correspondance, des lettres que le jeune Laurence écrivait notamment à sa mère, le regard que lui portait sur ses forteresses, est-ce qu'il vous a semblé plutôt romantique ou plutôt technique, très pratique, très descriptif?
Le regard de Laurence? Mais non, alors que Laurence est lui-même un personnage romantique par excellence, bon. Qu'en plus il était passionné par la chevalerie très tôt, hein. les histoires de chevalerie le passionnaient. Bon, d'ailleurs oui, dans un épisode de la guerre par la suite de la Première Guerre mondiale, donc quand il guerroie avec les Arabes contre les Turcs en Syrie, etc. Bon, il y a un épisode où il trimballe un roman arthurien, enfin un roman de chevalerie dans les fonds de sa selle. Bon, enfin, donc il est très captivé par cet univers. J'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire. Voilà, c'est ça quand on parle des romans de chevalerie.
Oui, votre regard sur le regard de Laurence.
Dans ses lettres, dans ses descriptions, il est extrêmement technique.
Il est très technique.
Les lettres un peu moins. Les lettres, il y a des détails sur sa vie quotidienne, les rencontres avec les gens, etc. Mais alors la thèse, elle est assez indigeste, à vrai dire.
Et la particularité quand même du livre, c'est un jeu de regard entre le sien, un jeu de regard à travers les époques, le vôtre avec d'autres personnes. personnages qui ont réellement existé, qui ont aussi porté leurs yeux sur ces forteresses, comme l'historien Paul Deschamps, que vous citez à plusieurs reprises. On sent pour vous aussi un plaisir à redécouvrir ces lieux avec vos propres yeux. Est-ce que c'est parce que vous faites plus confiance en votre regard? Vous aviez envie d'aller vérifier son jugement à lui, celui de Laurence d'Arabie?
Non, mais ce qui m'intéresse dans cette histoire, enfin comme dans pas mal d'autres, hein, c'est le fait que c'est un véritable millefeuille historique. Enfin, il y a des épaisseurs multiples depuis au moins depuis le Moyen Âge et depuis les croisades. Bon, dont je parle peu, d'ailleurs j'en parle un peu, mais c'est pas particulièrement ce moment-là de l'histoire qui m'intéresse. Je parle un peu plus de la période mandataire, c'est-à-dire de l'époque après la Première Guerre mondiale, où la France a reçu de la Société des Nations un mandat sur la Syrie et le Liban. Bon, d'où Deschamps, qui était le grand archéologue français. Enfin, grand, il l'était véritablement. D'ailleurs, c'est vrai que là, s'il y a un aspect positif, pour reprendre cette terminologie, de la présence française en Syrie, c'est bien la restauration des monuments, et en particulier du Krak. Bon, et donc ça, c'est un peu l'œuvre de Deschamps, qui a écrit par ailleurs une œuvre monumentale à ce sujet. Donc
jeu de regard.
C'était aussi, oui, enfin, s'agissant de cette dimension historique et de la... beaucoup de ces châteaux ont joué en fait un rôle, y compris un rôle militaire encore dans l'histoire récente. C'est le cas donc de Beaufort au Liban, qui a été occupé pendant longtemps par l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine, qui a été prise d'assaut par l'armée israélienne, laquelle en a été chassée plus ou moins par le Hezbollah. C'est le cas du Krak, donc, qui est occupé par des rebelles au début de la guerre civile en Syrie et repris par l'armée syrienne. Enfin, je trouvais très étrange, voilà, et assez captivant, quoi, que ces châteaux forts aient retrouvé une vocation militaire dans une période récente. Voilà, contrairement à toute attente.
Alors, il va y avoir des déceptions pour lui, comme la citadelle de Maziaf en Syrie, dans la province de Hama, que Laurence décrit comme absurdement faible, tout juste bon à faire une prison ou un hospice, probablement déçu aussi par les images qu'il s'en était faites à la lecture d'un livre de Rider Haggard, L'odeur des mines du roi Salomon, et ses descriptions qu'il jugeait splendidement imaginatives. Vous y retournez et vous écrivez que, vu de plus loin, de la montagne où se trouve la tombe de Sinan en face, vous écrivez, le château de Maïzaf, lequel n'est pas sans beauté, si faible que soient ses défenses, apparaît sous son jour le plus avantageux. Un jeu de regard donc à travers les époques, sur le Krak des Chevaliers aussi, dont on a commencé à parler. Une exposition, Jean Rollin, est consacrée au Krak des Chevaliers en ce moment, à la Cité de l'Architecture du Palais de Chaillot à Paris. Chronique d'un rêve de pierre, cette exposition est prolongée jusqu'au 4 mars. Il a été construit à partir du 12e. Il est aujourd'hui classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'histoire d'une fascination, je vous propose d'écouter les mots du conservateur en chef du patrimoine et archiviste paléographe Emmanuel Pénicaud au micro d'Oriane Delacroix.
Le plus beau des châteaux du monde, certainement le plus pittoresque que j'ai vu, c'est en ces termes que Laurence d'Arabie décrit le Krak des Chevaliers. Il prend la suite d'une quantité d'explorateurs et de découvreurs au XIXe siècle qui ont redécouvert ce château magnifique. Pourquoi est-ce que ce château fascine autant? C'est d'abord son état de conservation. C'est un château qui nous est venu tout droit du Moyen-Âge, sans aucun ajout et quasiment sans aucune destruction. C'est un château qui est situé en altitude, au sommet d'une colline, à 700 mètres de hauteur à peu près. Et le Krak des Chevaliers, en fait, domine une des routes qui traversent la montagne, et notamment la route qui relie Homs à la mer. Le château est d'abord le fruit d'un chantier qui a duré quelques décennies. Donc, on a d'abord un petit château de forme à peu près triangulaire à l'intérieur, défendu par trois grosses tours sur le flanc sud. Au centre de ce château intérieur, une cour autour de laquelle se distribuent les différents espaces et notamment une chapelle. Le château intérieur est bâti donc entre 1180 et 1200. Il est d'un style roman très pur, hein. Ce qui fascine également les explorateurs depuis toujours, c'est la façon dont on a plaqué l'architecture castrale européenne à plusieurs milliers de kilomètres de distance, hein. Les croisés sont arrivés avec leurs architectes, avec leur conception, et il y a eu certainement des échanges, des discussions, des transferts de techniques et d'influences, puisque tous les ouvriers qui ont bâti le Krak, à l'évidence, n'étaient pas des croisés, mais la conception est bien celle d'un château européen. Dès le XIXe siècle, on présente ce château comme un château normand planté au cœur de la Syrie. au fil du XIIIe siècle, alors que les positions des croisés sont fragilisées par les attaques incessantes des musulmans, les hospitaliers décident de renforcer encore les défenses du château. Donc on a un second grand chantier qui conduit à doubler la superficie du château, qui fait désormais donc 300 mètres de long, 150 mètres de large dans sa plus grande largeur. On bâtit donc une seconde enceinte, en fait, tout simplement. On fortifie encore le château intérieur et on bâtit notamment ces grands talus de pierre, ces grands glacis de pierre qui ont fait la célébrité du krach des chevaliers et, j'allais dire, qui le rendent quasiment inexpugnable. Alors, effectivement, l'histoire du krach, elle est double. C'est, j'allais dire, à la fois l'histoire de la construction de ce château fort énorme, et puis c'est aussi l'histoire d'une redécouverte, puisque entre la fin des croisades et le début du XIXe siècle, le krach tombe absolument dans l'oubli. À partir du milieu du XIXe siècle, les explorateurs occidentaux commencent à s'avancer dans le sillage de ce grand mouvement orientaliste vers la Syrie profonde. En 1812, un Suisse fait le premier récit de sa visite au krach des chevaliers. Dès lors, tous les 20 ans à peu près au XIXe siècle, une mission d'exploration succède à une autre au krach des chevaliers. En 1859, première mission française, la mission du baron Ray, qui part au krach avec un photographe, Louis de Clercq, et les deux hommes en rapportent les premières images du krach des chevaliers sous la forme d'un grand album photographique qui paraît à Paris en 1860 et qui joue un très grand rôle parce que ce sont ces quelques images, à une époque où la photographie est encore rare, qui vraiment, dans les cercles savants parisiens, français et plus largement européens, vont répandre l'image de ce château idéal. Et dès lors, on va voir germer des vocations d'explorateurs, de découvreurs, mais c'est vraiment avec la période du mandat français que les archéologues français, en fait, attirés par le haut commissaire, attirés par la France, qui veut mettre en valeur les pays sous mandat, donc que ces archéologues vont s'installer en Syrie et au Liban. Et 11 avril 1926, lors d'un voyage scientifique, le jeune Paul Deschamps, professeur à l'école des Chartes, conservateur au musée de sculpture comparée, tombe nez à nez avec le krach des chevaliers et tombe réellement amoureux de cette forteresse. Il avait vu les photos rapportées au XIXe siècle, il avait lu quelques ouvrages qui avaient déjà été écrits sur le krach des chevaliers, mais il ne l'avait jamais vu. Et là, il y a vraiment une rencontre entre un homme et un lieu. Et Paul Deschamps, en ce beau matin de printemps 1926, décide que la restauration et la mise en valeur du krach des chevaliers seront l'œuvre de sa vie.
Le krach a été, vous le racontez, Jean Rollin, occupé entre 2012 et 2014. Quand vous l'avez revu ou vu en 2017, qu'en reste-t-il? Est-ce qu'il est très abîmé?
C'est très difficile à dire parce que je ne suis pas archéologue, je ne suis pas médiéviste, je ne suis pas. L'aspect extérieur du krach est absolument inchangé. Enfin, il y a des pêtes un peu partout, des impacts de projectiles divers. Maintenant, quand on rentre en revanche à l'intérieur du château, il y a des dégâts quand même assez importants. Il a été bombardé à la fois sans doute par de l'artillerie et certainement aussi par de l'aviation. Donc il y a des dégâts causés, je pense, par des bombes d'aviation qui sont tout de même assez considérables, mais pas rien de dramatique. Effectivement, ce sera certainement du boulot pour les archéologues quand ils s'y mettront, mais ça n'est certainement pas irréparable. Ça n'est certainement pas irréparable. Et tel qu'il est actuellement, il est déjà ou encore extrêmement beau et extrêmement semblable à ce dans quoi Paul Deschamps l'avait transformé par sa restauration.
Voilà le plus beau, disait Laurence d'Arabie, pour vous également. Cette vision, celle de ce krach, de ce château, a donc et restera un souvenir important. À voir cette exposition, si vous le souhaitez, si vous passez par Paris, au Palais de Chaillot, à la Cité de l'Architecture, qui retrace toute l'histoire de cette forteresse. C'est un jeu de regard à travers les époques, un voyage à travers l'histoire de la région, et puis aussi dans Krach, votre nouveau livre, Jean Rollin, qui sort chez POL, des oiseaux, comme toujours, qui font leur apparition. On n'aura pas eu le temps d'en parler, mais il y a des corbeaux, et il y a même une infecte mésange qui finira sacrifiée aux mânes d'un grand aventurier. Pour savoir comment, il faut lire ce livre. Merci beaucoup, Jean Rollin. Merci d'avoir été avec nous.